BW. Magazine Environnement.
Au menu cette semaine, des effets des changements climatiques sur les enfants au Bangladesh. Le magazine nous amène également au Nigeria pour parler de la poésie pour l'environnement et en Côte d'Ivoire à la rencontre d'un jeune qui produit des engrais biologiques.
Nous avons utilisé plusieurs types d'intrants. Bon, je vais parler d'intrants, je vais parler des déchets.
Mesdames et messieurs, bonjour. Kosivi Tiassou au micro. Capsule à Côte d'Ivoire, ce pays est le premier producteur agricole d'Afrique de l'Ouest. Et la plupart des paysans font recours à des engrais, notamment chimiques, pour augmenter leur production. Désormais, une entreprise éco-vertueuse implantée dans la capitale à Abidjan propose des variantes organiques qui rencontrent un grand succès. L'initiative d'un jeune Ivoirien. Le reportage de Lorraine Sénéchal que nous présente Fiacre Ndaragijé.
Fabriquer de l'engrais à partir de déchets organiques. C'est une idée que Silver Kouakou a eue il y a 3 ans. Il a convaincu des entreprises de lui donner leurs déchets alimentaires et fondé la société Green Countries à Abidjan.
La composition finale est partie d'une expérimentation qui a pris pratiquement les 10 premiers mois de 2016. Nous avons utilisé plusieurs types d'intrants. Bon, je vais parler d'intrants, je vais parler des déchets. Et à chaque fois qu'on finissait un produit, on partait l'analyser en laboratoire. Pour pouvoir voir le meilleur modèle, le meilleur mélange qui peut nous donner le produit le plus riche qu'on pouvait obtenir.
Sur le site de l'entreprise, les déchets alimentaires sont triés pour former différentes couches.
C'est des couches successives de différents types de déchets que nous avons. Donc vous constatez avec moi que juste en dessous de l'ananas, vous avez du café là. Donc le café a été mis avant que l'ananas ne soit mis aujourd'hui. Mais bien avant même que l'ananas soit mis, il y a eu des déchets alimentaires et une couche, une fine couche de papier essuie-tout, qui eux aussi sont biodégradables.
Cette méthode qui consiste à superposer différentes couches favorise la croissance de certaines bactéries qui accélèrent le processus de fermentation. Au bout de 8 semaines, l'engrais est prêt. En 2017, Green Countries a vendu 350 tonnes de son engrais organique. En Côte d'Ivoire, la demande est forte car l'agriculture est le secteur d'activité numéro 1. Pour amorcer le changement, Green Countries a approché de grandes entreprises de transformation comme le fabricant de jus de fruits Atou. Avec une proposition toute simple, on vous débarrasse de vos déchets et vous nous achetez notre engrais bio.
Quand on prend 1 kg de fruits d'ananas et qu'on presse, et vous utilisez que 45%, les 55% sont jetés. Et Green nous a apporté la solution qu'on cherchait avec les autres, comment revaloriser nos déchets.
À Bonoua, à 60 km d'Abidjan, Christophe Sidigo doit fertiliser régulièrement les 5 hectares de sa plantation d'ananas. 20 années de monoculture ont épuisé le sol.
À l'hectare, bon, pour nous les planteurs particuliers, nous allons à 50-40 tonnes par hectare. Okay. Alors, pourtant, depuis un temps, là, on n'arrive pas à avoir 50 tonnes, on a au moins aux alentours de 30 tonnes hectare.
Jusqu'ici, Christophe Sidigo avait recours à des engrais chimiques pour récolter ses 50 tonnes d'ananas. Ouais. Comme presque tout le monde ici, il ne s'est converti à l'engrais bio que cette année. Ce dont il est sûr, ce que cet intrant organique ne nuira pas à sa santé ou à celle de ses récoltes.
Je me suis renseigné, on m'a dit que c'est les déchets de l'ananas que nous produisons. On sait que dans l'avenir, tous nos déchets, nous pouvons les recycler et ça peut nous donner de l'avantage encore.
S'il veut que les paysans soient plus nombreux à adopter les engrais organiques, Silver Kouakou va devoir baisser ses prix. Les engrais classiques sont pour l'instant nettement moins chers que ceux fabriqués à partir de déchets agricoles.
Des inondations désastreuses, des cyclones et autres catastrophes environnementales liées au changement climatique menacent la vie et l'avenir de millions d'enfants dans le monde. Et au Bangladesh, ils sont plus de 19 millions d'enfants selon l'UNICEF. Dans un rapport intitulé « L'orage menaçant, le changement climatique a sombré l'avenir des enfants au Bangladesh ». Les explications de Luc Chauvin, chef des partenariats humanitaires à l'UNICEF.
comme on essaie de le montrer dans le rapport, le Bangladesh est un des pays déjà les plus vulnérables au changement climatique à l'échelle mondiale, puisqu'il fait partie des 10 pays qui sont dans la liste des pays les plus affectés. Donc ça, c'est la réalité qui est liée à la géographie du pays. C'est un pays plat, en bordure de mer, qui est exposé à des événements climatiques extrêmes et récurrents, comme des cyclones. Et l'on sait très bien que le changement climatique a d'ores et déjà un certain nombre d'effets, notamment l'augmentation du niveau de la mer. Et puis, surtout numéro 2, c'est déclencher des événements climatiques de plus en plus fréquents et erratiques. Donc, lié au fait que la population du Bangladesh, c'est à peu près 200 millions de personnes, à peu près la moitié de cette population est une population de moins de 18 ans. Vous voyez un peu qu'on est dans une tempête parfaite. Donc, les risques pour la population d'enfants au Bangladesh étaient vraiment importants. Et avec, là encore, des pluies de mousson qui contribuent à des débordements très fréquents, des inondations de terrain, destruction d'écoles, comme il a été mentionné dans le rapport. Donc, l'impact, il est réel. C'est un risque pour la survie même des enfants, mais c'est un risque aussi même pour le futur des enfants, puisqu'on a déjà des exemples d'écoles qui ont été dévastées par la montée des eaux liées au changement climatique et au réchauffement. Et donc, la population qui se trouve dans les zones à risque, notamment la partie sud du Bangladesh, et notamment la population de jeunes, se trouve vraiment à risque.
Le rapport de l'UNICEF indique que si les Bangladais ont développé des capacités de résilience, il est quand même urgent de disposer davantage de ressources et de programmes innovants pour éviter le danger que représentent les changements climatiques pour les plus jeunes.
Le rapport reconnaît le travail important qui a d'ores et déjà été effectué par le gouvernement du Bangladesh dans la mise en œuvre de systèmes d'alerte pour les populations, dans la construction d'abris dans les zones à risque, etc. Donc, et ça, on le voit même très bien en termes de nombre de personnes qui ont été tuées par des cyclones. En 1970, il y avait un fameux cyclone qui s'appelait le cyclone Bola qui avait malheureusement tué plus d'un demi-million de personnes. Je crois que c'est la plus grosse catastrophe naturelle de l'histoire récente et c'était lié à l'absence de mécanismes d'alerte, etc., et d'infrastructures adaptées. Grâce aux efforts faits par le gouvernement du Bangladesh avec l'appui de la communauté internationale, mise en œuvre du système d'alerte, construction d'abris, etc., l'impact humain de nouvelles catastrophes est réduit. Par exemple, la dernière grande catastrophe qui a eu lieu au Bangladesh d'origine climatique, c'est le cyclone Sid en 2007 et qui n'a tué que 3500 personnes. Alors évidemment, c'est 3500 personnes de trop, mais on voit d'ores et déjà que un certain nombre de mesures qui avaient été prises par le gouvernement avec l'appui de la communauté internationale ont des effets positifs. Donc ce que l'on recommande à travers ce rapport, c'est simplement une augmentation, une continuation et ne pas oublier le Bangladesh et notamment les enfants du Bangladesh.
Luc Chauvin, chef des partenariats humanitaires à l'UNICEF, était au micro d'Alpha Diallo. Par ailleurs, en Afrique, les conséquences des changements climatiques expliquent les problèmes de malnutrition rencontrés dans certaines régions. DW. Combattre la pollution par la poésie, c'est la mission que se sont assignés certains jeunes au Nigeria, un groupe d'étudiants de l'Université de Lagos. Le groupe est convaincu qu'il peut y arriver et a lancé l'initiative dénommée « Le Parlement des poètes ». L'objectif, sensibiliser à l'environnement par la poésie. Le reportage de Neota Ngbe et de Franca Turao que nous présente Anne Letouzé.
Quand je pense au paradoxe de la nature, amusé par les réalités vertes, je suis émerveillé par ta création.
Michael Babajide lit un de ses nombreux poèmes. Tous sont consacrés à la nature et à la protection de l'environnement. Ce jeune homme de 25 ans écrit des poèmes inspirés par la nature pour y exprimer ses idées novatrices.
La nature embellit notre monde. Elle occupe une place significative dans notre société. Donc, si je suis un poète qui aspire à transmettre du savoir au monde et qu'il est possible de faire une poésie qui donne une place d'honneur à la nature, alors pourquoi n'en ferais-je pas la promotion?
Voilà pourquoi Michael Babajide a lancé son initiative Le Parlement des poètes il y a 2 ans. Le groupe se réunit 3 fois chaque semestre pour présenter ses poèmes. Cette initiative fait partie de leurs actions pour la protection de l'environnement.
C'est de la poésie qui doit apporter littéralement le changement. Ce n'est pas de la poésie abstraite. C'est de la poésie sur la vie réelle, de la poésie à laquelle tout le monde peut s'identifier.
Je crois que le Parlement rapproche la poésie de la société, une poésie qui ne soit pas vague. Cela nous montre que la nature est une chose à protéger, que nous devons maintenir la propreté de notre environnement. Et cela nous apprend que la poésie n'est pas quelque chose d'abstrait.
Les poèmes étaient vraiment géniaux.
J'ai beaucoup aimé le début, quand il a dit de rendre grâce à tous les animaux, les abeilles comme les éléphants. J'ai aimé cela parce que tu as montré la satisfaction qu'on peut avoir à protéger la nature. C'est ce que nous sommes censés faire, nous, humains, mais nous faisons souvent le contraire.
Making it worse each day. Green
environment. Michael Babajide et ses amis prennent les problèmes environnementaux très au sérieux parce que le Nigeria est confronté à des enjeux environnementaux critiques. Il y a de nombreux problèmes, comme par exemple la fuite de pétrole dans l'environnement. Il y a aussi le non-traitement des déchets et les immenses décharges. Le groupe ne se contente pas de se réciter des poèmes les uns aux autres. Michael Babajide se rend aussi dans des lycées pour enseigner aux élèves l'importance de prendre soin de l'environnement.
Les poèmes ne servent pas juste à occuper un espace vacant dans la société. Ils ont un rôle de messager. Ils portent des mots qui ont le potentiel de transformer le monde et la société qui les entoure.
Les membres du Parlement des poètes enseignent aux élèves et aux enseignants comment écrire leurs propres poèmes pour sensibiliser sur les problèmes environnementaux du Nigeria.
Ce que j'ai appris, c'est que les haïkus contribuent à promouvoir la nature. Et tout repose sur les syllabes et la formulation. Vous vous informez sur la nature, vous apprenez à la protéger en faisant des haïkus. L'atelier de haïku promeut la jeunesse et la protection de la nature.
Le groupe n'a pour l'instant visité que deux écoles, mais il espère inspirer plus de gens à protéger l'environnement grâce à des poèmes comme celui-ci.
Changement climatique, haine nucléaire, tremblement de terre, ouragan, réchauffement climatique, déchets écologiques, etc., etc.
C'est sur ce reportage de Néota Egbe et de Franca Turao que prend fin le nouveau numéro de notre magazine. Merci de nous avoir suivis. Kossi Vitiasou au micro et restez toujours à l'écoute de la Deutsche Welle.